l'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, 19h passé de 2 minutes, vous êtes à l'écoute de Radio Canu pour le Canu Info en ce jeudi 3 décembre 2020. Donc voilà, nous allons faire une petite séance d'information. On va parler un peu de la France insoumise, du capitalisme, de Donald, fan de peine de mort, d'Alliance, syndicat nauséabond, de Décathlon, de ni Dieu ni maître, hein, un peu de rationalisme dans ce monde surréaliste des fois, de Nikola Motors, je sais pas ce que c'est, de Wish, d'Apple, enfin voilà, de pas mal de choses, et voilà, ce sera ce Canu Info de ce 3 décembre, avec une mort qui nous a un petit peu marqué, enfin en tout cas moi, celle de la charmante jeune femme, maintenant elle est morte vieille, mais jeune femme qui chantait quand j'étais petit, c'est une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et un escalier, oui. Et ça marche pas, donc vas-y, parle.
Est-ce
vas-y.
Que tu m'entends?
J'ai tout monté, oui.
Ouais,
c'est
bon. Voilà.
Donc voilà,
tu l'as
je voulais.
Chanté, je disais.
Ouais, j'étais très fan de ce morceau, mais aussi de la fusée, de un truc sur un veau aussi. Enfin voilà, c'est Anne Sylvestre qui a bercé une partie de notre enfance, mais qui a écrit aussi des chansons très sérieuses.
Oui, on est par contre beaucoup moins ému par la mort de notre ancien président.
Tu veux dire le mec qui a installé tout le système de centrales nucléaires en France?
Alors,
là.
Si tu m'accordes 2 secondes, ouais. Parce qu'en fait, je voulais vous renvoyer sur une belle lecture. Qui est sur le site de Charlie Hebdo.
Oui, il y a eu, j'ai lu la.
Sur le pour dire d'abord que on en fait un homme moderne. Bon,
fallait pas délirer non plus. Hein.
Ouais, non, mais je veux dire, c'est les espèces de fantasmes lorsque les gens meurent. On en fait d'un seul coup des héros de la Révolution. C'est grandiloquent, c'est stupide et tout. Mais c'est vrai que sur Charlie Hebdo, on a un très bel article qui est sur une question assez précise. Ça s'appelle En Auvergne, tout le monde ne pleure pas Giscard. Puisqu'on nous dit qu'on voudrait donner son nom à Vulcania, enfin bon, c'est magnifique. En tout cas, c'est un papier qui nous parle aussi de la presse et qui est un papier assez intéressant en ce moment, puisque la presse est attaquée, les journalistes sont attaqués, qu'ils aient ou non des cartes de presse, qu'ils soient indépendants ou non. Mais notre droit à la liberté d'expression en tant que citoyen et citoyenne est aussi attaqué. Et je trouve que c'est un entretien avec Marc Gachon, qui est journaliste et rédacteur de la Gallipote. C'est un journal avec des dessins de presse et un journal d'investigation de l'Auvergne par là-bas et qui a subi les attaques de VGE à l'époque, hein, lorsqu'il était dans la région de l'Auvergne, avec la censure, les attaques, les coupures de sous, de financement, les perquisitions aussi, après quand il était président, hein, en 79. C'est un article très chouette à récupérer, hein, sur le site de charliehebdo.fr. Ça change un peu de tout ce qu'on a entendu ces dernières heures. Ça repose aussi le débat. Non, c'était pas un homme moderne, mais c'était peut-être aussi parce que ceux d'avant, ils étaient tellement ringards et coincés, conservateurs, que ben, du coup, on avait l'impression d'avoir quelque chose de mieux, alors que c'est pas vrai.
En fait, il y a eu une telle pression de la société qu'il a avancé sous la pression de la société, essentiellement.
Voilà.
Enfin, il laissait traîner ses mains sur certaines femmes. Voilà, hein, moderne, c'est ça. On va en reparler.
Beaucoup à en dire.
Voilà, tout à fait. Bon, bref, je vais parler, moi, de la France insoumise et de leurs amis qui partent en vrille, en tout cas pour le militant de gauche et tendance anarchiste que je suis, c'est j'avais juste à vomir. On va commencer par François Ruffin, que je ne supporte plus depuis au moins 5 ans, alors que j'ai eu lu Fakir, j'en regrette avec le recul.
Ouais, mais je crois que ça fait plus de 5 ans, tu sais, quand
ah ouais, nous oh merde, critiquons ouais.
cette antenne. Même si c'est toujours agaçant d'attaquer un journal comme Fakir, mais on peut attaquer, par contre, l'homme politique que Ruffin est aujourd'hui, et... Le patron qu'il a pu être aussi.
Voilà, parce que c'est un patron. Donc, il était interrogé sur la réhabilitation des frontières par Arnaud Montebourg, hein, qui lui aussi, un jour, a été de gauche. Ancien ministre, on rappelle, député de la... Et donc, voilà, ancien ministre. Et il s'est retrouvé plein de points communs, Monsieur Ruffin, avec Arnaud Montebourg. Et donc, il a approuvé le discours de Montebourg en disant, et je vais citer donc trois phrases qu'il a dit. Vous vous retenez de vomir, s'il vous plaît. Je suis favorable au retour des frontières sur capitaux, marchandises et personnes. Je suis favorable au retour des frontières aussi pour les gens du Nord qui vont voyager partout dans le monde. Il faut poser des limites aussi à la circulation tous azimuts des personnes. Je pense que les frontières ne sont pas quelque chose de négatif. Les frontières permettent de se construire aussi. Ah, donc voilà, ce mec qui est soi-disant de gauche, on savait qu'il était souverainiste au niveau économique. Que pour lui, c'est un discours qui était dans Fakir, hein, il y a bien avant qu'il soit homme politique, qui était très présent dans Fakir, le taxer les marchandises, etc. Sur la nationalité, et ça c'est le truc ridicule des souverainistes, c'est que aujourd'hui, acheter un produit qui est fabriqué à La Réunion, il faudrait pas le taxer, alors ça fait des millions de kilomètres, mais c'est la France. Alors que toi t'habites Perpignan, t'achètes un produit qui vient de l'Espagne, 50 bornes, il faut le taxer parce que il est méchamment espagnol. Donc c'est ce racisme qui sous-entend en permanence le souverainisme qui est mis en œuvre par Ruffin, qui était à l'époque dans Fakir, ce qui m'a fait arrêter Fakir à un moment, et qui est toujours présent dans ce discours d'extrême gauche daté. Du coup on a l'impression d'entendre les communistes, comme moi quand j'étais adolescent. Voilà, c'est pas très glorieux. Maintenant on va passer à Manon Aubry, que je ne connais beaucoup moins bien que François Ruffin, parce qu'elle n'était pas patronne de presse. Voilà. Alors elle, c'est sur le racisme. Alors on sait que la France insoumise, que pour la France insoumise, le racisme, c'est un peu compliqué. Pour eux, il n'y a qu'une seule forme de racisme, quasiment. En tout cas, c'est ce qui est instrumentalisé en permanence par la France insoumise, c'est l'islamophobie. C'est ça qui est martelé en permanence. Et du coup, ils oublient tout le reste. Et là, on a la preuve flagrante avec Manon Aubry. Alors, ça s'est passé vendredi dernier, on était le 27 novembre, sur le plateau de France Info. Elle était invitée à débattre sur la question du racisme et des violences policières. Et elle s'est emportée face à la maire de Taverny, Florence Portelli, que je ne connais pas du tout, qui est plutôt de l'autre bord politique, je crois, La République En Marche. Elle a dit à Florence Portelli, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le racisme. Bon, je sais pas, elle la connaît peut-être très très bien, c'est pour ça qu'elle a dit ça, a priori non. Florence Portelli a répondu, ma mère quand elle est arrivée en France, donc elle est issue de l'immigration du coup, ma mère quand elle est arrivée en France, elle était italienne, elle s'est fait traiter de sale macaroni. Et là, l'élu de la France Insoumise a dit, c'est pas une insulte raciste. Si tu te dis, ouais, super, traiter quelqu'un de macaroni parce qu'il est italien, c'est pas raciste. Eh ben, tout va bien. Alors, elle s'est fait lyncher, hein, médiatiquement, il y a eu pas mal de réactions. Elle était soutenue par ses amis pseudo-antiracistes de la France Insoumise, mais finalement, elle a avoué sur Twitter que non, elle avait tort, c'était bien des propos racistes. Alors, c'est dans le long discours de la déconstruction, de la destruction de l'antiracisme par certaines forces de gauche qu'on voit réapparaître, hein, chez Manon Aubry. Alors, peut-être qu'elle a découvert, du coup, grâce à ce dialogue sur France Info, à cette Florence Portelli, que les Polonais, les Italiens, les Espagnols et bien d'autres ont subi du racisme par le passé. Hein, les Polonais, ça a commencé d'aller début du XXe siècle, hein, quand ils venaient dans les mines et qu'ils se faisaient jeter, retourner chez vous, voilà. Enfin, il y a eu des trucs atroces. Hein. Les Polonais, les Espagnols, pas mal dans les années 70, 60 aussi, parce que c'était les racailles de l'époque, hein, si on se rappelle bien. Si vous regardez des films de l'époque, vous le voyez assez souvent en revenir. Et voilà, ce forme de racisme-là a existé, même si c'est atténué, remplacé par le racisme anti-maghrébin et anti-noir qui est prédominant, l'antisémitisme ayant été à peu près constant, hein, tout au long de notre triste histoire du racisme. Donc voilà. Alors peut-être qu'elle a découvert aussi par la même occasion, j'espère, que en fait tous les Arabes n'étaient pas musulmans et que les musulmans athées ou les Arabes athées ou les Arabes chrétiens, eh ben, ils se retrouvaient pas dans l'islamophobie mis en avant en permanence dans la lutte antiraciste par la France insoumise. Bah oui, 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 ça c'est ce que le Front National nous a fait comprendre, nous inculquer il y a de nombreuses années que tous les Arabes étaient musulmans et tous les musulmans étaient Arabes. La France insoumise a intégré ce truc-là, tristement. Et en fait, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, il y a des musulmans qui sont français depuis 14 générations.
C'est
donc
même pas compliqué, en fait. C'est juste qu'il faut ouvrir l'esprit et se rendre compte. Tu sors un globe et tu regardes ce qui se passe dans le monde, quoi.
Voilà, donc du coup, elle doit commencer à comprendre que le racisme, ben, ça concerne pas que les musulmans, ça concerne aussi des gens qui sont exclus pour cette raison-là. Pas parce qu'ils appartiennent à une secte ou à une religion, mais juste parce qu'ils ne correspondent pas à un standard normalisé par des gens peu ouverts. Donc on pense notamment en ce moment, parce qu'il y a une énorme montée du racisme anti-asiatique depuis la crise du Covid, on a vu des appels au meurtre lancés sur des réseaux commerciaux, sur Twitter aussi, donc peut-être qu'elle va prendre conscience de ça aussi. Le racisme est un truc qui est vachement large et qui touche tous les gens qui ne correspondent pas à l'ethnie soi-disant majoritaire, blanc, caractéristique, caricaturale, qu'il y a dans cette imagerie collective nationaliste et fascisante que la France insoumise s'est appropriée aussi, peut-être sans le vouloir, mais en tout cas elle se l'est bien appropriée. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je pouvais pas me retenir, j'ai eu envie de taper à un monsieur qui s'appelle Jean-Luc, alors je m'en excuse, heureusement je suis pas passé à l'acte. Alors, en général ma violence est plutôt verbale, je crois que j'ai pas souvenir d'avoir tapé des gens. Je vais parler du gourou autoproclamé et chef haillon de la France insoumise, le fameux, le célébrissime Jean-Luc Mélenchon. Moi, c'est la République. C'est lui qui dit ça, bien évidemment, pas moi. Donc, il a présenté son programme géopolitique et défense, c'est le nom. Il a fait un point sur le service militaire. C'était pas la première fois, et il rappelle qu'il veut rendre obligatoire le service militaire. Donc, c'était pas dans son programme la dernière fois, mais lui, il est gros défenseur de ce truc-là. Et on peut le lire. Donc, je cite ce qu'on trouve dans son discours ou son site internet. Nous proposons donc l'instauration d'un service national obligatoire, socle d'une garde nationale citoyenne. Allez, et après, il fait un raccourci énorme. Le service national est un acquis de la Révolution française qui a vu le corps social établir sa souveraineté sur un domaine central du pouvoir régalien. Face à l'érosion du lien armée-nation provoquée par la suspension de la conscription de 97, il est essentiel de redonner à la nation la souveraineté de son outil de défense. Voilà, bon, bref, il veut remettre le service militaire. Made in Jean-Luc Mélenchon, ça serait un truc obligatoire, hommes et femmes, entre 18 et 25 ans. Service militaire ou sous une forme civile, mais dans un truc militaire, quelque part, puisque c'est la sécurité civile, c'est la police. Bref, c'est l'éternel retour de la structure hiérarchique autoritaire qui plaît aussi bien du coup à droite, à l'extrême droite, au centre, que dans ce parti qu'on classait autrefois à gauche, dont fait partie Monsieur Mélenchon. C'est un classique de la gauche autoritaire. Moi, j'ai connu le communisme quand j'étais adolescent, et je voyais très bien mes grands-parents défendre ce communisme autoritaire qui me faisait déjà vomir, je sais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi, mais à l'époque, je me rendais pas bien compte pourquoi j'aimais pas ça. Et du coup, cette vision pyramidale et hiérarchique de la société qui trouve sa quintessence dans l'armée, c'est vraiment la structure typique de commandement des chefs, des sous-chefs, on descend une hiérarchie, qu'on retrouve chez les scouts, qu'on retrouve ensuite dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant de faire passer les jeunes dans l'armée, c'est pour les préparer au monde totalitaire de l'entreprise. Je vous rappelle que aussi bien dans l'armée que dans le monde de l'entreprise, l'esprit critique, il faut le laisser de côté, et il n'y a rien de démocratique. Il n'y a pas d'élection, on vote pas pour son patron, son chef, etc. Donc voilà, c'est ça que défend Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Et ça, c'est pas glorieux quand on se rappelle que nous, on a tout fait pour échapper, ceux qui étaient, à ce service militaire, soit en faisant une forme dans une association qui n'était pas une forme civile, qui était comme celle de Mélenchon, c'est une vraie forme libre, ou en faisant des faux trucs, en étant vraiment malade. Enfin bon, bref, c'était un gros combat de gauche pour échapper à ce truc-là. Et lui, il veut le remettre. Cerise sur le gâteau, j'ai trouvé un truc qui m'a fait encore plus mal. C'est Adrien Quatennens qui a déclaré, alors il est invité au grand jury RTL LCI Le Figaro, je cite, nous ne sommes pas et nous n'avons jamais été anti-flics à la France Insoumise. Voilà, il a déclaré une belle déclaration d'amour pour la flicaille. D'un coup, je crois qu'on peut plus les mettre à gauche, quoi, c'est plus possible. Voilà, elle est belle la France insoumise en 2020. Hein, on avait des tendances déjà qui avaient un peu vrillé, mais là je crois qu'en une semaine, on a eu tout ce qu'on pouvait détester dans la politique politicienne.
Alors, je vais surtout pas relancer le débat, mais je crois que tu surestimes ce qu'est la gauche. Voilà. Peut-être que chez les anarchistes, il y a des positions plus claires. Voilà. Alors, on va parler de toute autre chose maintenant. Mais
non, mais attends, rappelle-toi, Mitterrand, c'est l'arrivée de la possibilité d'échapper à l'armée. Avant, on faisait de la tôle et tout. Il y a eu quand même une gauche qui a été progressiste et antimilitariste à une époque, universaliste. Tu sais, le mot interdit à la France insoumise.
Tout à fait. Voilà.
Bon, bref.
Tout
oui.
à fait.
Mais
donc,
nous sommes un art. C'est pour ça que ça nous énerve deux fois plus. Voilà.
Alors, il faudrait normalement un tableau avec une craie ou un tableau blanc avec un machin qui est écrit dessus qu'on peut effacer. Pour les petits sujets que nous allons faire. Là, je repense à François qui, une fois, m'avait dit qu'il avait tout compris à ce qu'était le groupe Monoprix. Voilà, et que du coup, on pouvait mieux voler dans les Monoprix quand on savait qu'il y avait tout plein d'actionnaires derrière. C'est vieux, mais ça m'avait fait sourire. Ben voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, nous avons appris qu'une cession a été, ça y est, validée et officialisée. C'est celle des 545 magasins Leader Price, deux supermarchés Casino et trois entrepôts qui sont cédés par le groupe Casino à Aldi France. Et là, je sens que j'en ai déjà perdu, qu'ils me disent « Hein, Leader Price, c'est Casino ?» Ben ouais. Depuis 97, mes amis.
Ouais, c'est le capitalisme. Hein.
Voilà. Donc déjà, sachez que quand vous êtes dans un Leader Price, donc c'est jusqu'à présent chez Casino. Au Casino, comme on dit plutôt dans la langue française. Maintenant, ça va être Aldi France. Aldi qui tente de nous faire croire que c'est une entreprise avec des valeurs pour les jeunes qui n'en veulent, comme si les jeunes de Extinction Rebellion pouvaient se reconnaître dans les valeurs d'Aldi France. C'est un peu ça que nous racontent les pubs télévisées en ce moment d'Aldi France. Ça me fait un petit peu sourire. A priori, je suis pas la seule. Alors, pour tout vous dire, ça a été finalisé pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros et des produits de cession à 683 millions d'euros. Je dis ça pour ceux et celles qui savent de quoi je parle. Pour les autres, dites-vous juste que c'est pas mal d'argent et que cet argent, il doit permettre d'effacer la dette que Casino a actuellement. Le groupe hein, Casino, je raccourcis, pensez pas que c'est le petit Casino en bas de chez vous qui ressemble au Proxy, Vival et tout ça, parce qu'à chaque fois, ça change de
nom.
Pas que de nom. De proprio aussi, même si les gérants à l'intérieur qui sont pour beaucoup des gérants salariés qui en chient, hein, il faut le dire hein, quand même. C'est pas les meilleures conditions hein, de travail et de rémunération. Voilà, bon, donc vous avez un groupe qui va tenter d'apurer ses dettes et puis Aldi France qui va essayer de se redévelopper sur un autre secteur. C'est ces magasins Leader Price de proximité aussi. Donc voilà. Aldi n'est pas très présent encore en France, essaye de se positionner, de se donner une meilleure valeur.
À la campagne, je crois, un peu plus qu'en ville. Ouais.
On est dans le discount, donc c'est aussi de revaloriser hein, une certaine image avec Leader Price aussi. Donc ce qui va se passer pour l'instant, c'est qu'il va y avoir une transition, c'est-à-dire que le groupe Casino va continuer à gérer et ça va être progressif avec un passage au fur et à mesure en enseigne Aldi tout au long de l'année 2021. En même temps, Casino va pouvoir continuer à être propriétaire de la marque Leader Price et va pouvoir continuer à l'exploiter en France et à l'international. Et alors là, vous vous dites, oh purée.
C'est compliqué, là, qu'est-ce qui se passe ?
Et bah, c'est souvent comme ça, en fait. Hein. C'est pas parce que tu vends à
les
des magasins qui vont devenir des Aldi France que tu vas pas pouvoir continuer à faire du Leader Price. Il faut savoir que l'autorité de la concurrence avait mis des réserves au début sur un certain nombre de magasins parce que ça faisait un monopole. Donc, Aldi a dû en même temps vendre d'autres magasins pour pouvoir finalement acheter le pactole. Vous voyez ? Un petit peu, ça aussi, hein, c'est du jeu financier. Et pensez quand même que quand vous travaillez là-dedans, c'est quand même très compliqué d'aujourd'hui d'arriver à savoir pour qui vous travaillez. Et le premier et la première qui me dit bah pour les clients et les clientes, je viens chez vous, je vous mords. Voilà, c'est juste pour dire que c'est encore une fois une modification un petit peu hein, du jeu de cette grande distribution française. Et puis on a des nouveaux qui arrivent sur ce secteur de des biens de consommation. Puisqu'on a appris que Xavier Niel, vous connaissez, Mathieu Pigas, vous connaissez, se sont associés à Moïse Alexandre Zaouari, que vous connaissez certainement aussi. Oh, on en a parlé, mince, alors suivez un petit peu. C'est l'actionnaire majoritaire de Picard-sur-Gelée maintenant.
Ah oui, oui.
Vous voyez, c'est un beau monde hein, quand même.
C'est compliqué de suivre le capitalisme. Hein.
Mais c'est pour ça que
même s'ils ne sont pas super nombreux et super riches.
C'est pour ça qu'il faut. C'est vraiment un secteur sur lequel il vous faut un tableau et que je préférais, là, pour le coup, avoir une visioconférence avec vous pour pouvoir vous dessiner, vous faire des traits avec des structures. Parce que je pense que vraiment, c'est comme ça qu'on comprend le mieux. Alors, Xavier Niel et Mathieu Pigas ont amené 2 millions d'euros 30 millions pour Monsieur Zoary. L'idée, c'est de lever 30 millions via ce qu'on appelle une société spécialisée. C'est une SPAC. C'est une société spécialisée dans le but d'une acquisition. Donc déjà, ça s'appelle 2MX Organic ou 2MX Organic. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était...
En anglais ou en français.
Voilà. Bon. L'idée, c'est à un moment de pouvoir disposer de 2 milliards d'euros pour faire des acquisitions. Donc déjà, ça pue. Pardon. Je suis un peu brutale. Rendez-vous compte que Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moïse Alexandre Zoary s'accordent pour créer une structure qui veut faire de l'acquisition dans les biens de consommation et en particulier sur le marché du durable, de l'alternatif et du responsable. Ça pue. Mmh. Ça veut dire qu'on a des gens qui s'associent pour faire du pognon. Et rien que du pognon. Mais je veux dire, c'est même pas... on va racheter Picard surgelé, c'est ce qu'a fait Monsieur Zoary. Enfin, je veux dire, il arrive, il se pose, il est... Il y a des gens qui trouvent que c'est un très bon entrepreneur. C'est vrai qu'il est très très doué hein, dans ce qu'il fait. Il a revalorisé des tas de choses, on en avait parlé une fois ici. Mais c'est un nouvel acteur qui va rentrer hein, sur ce côté des biens de la consommation et peut-être sur le côté du bio. Donc là aussi, ça fait un petit peu peur parce qu'on a des financiers qui veulent acquérir un certain nombre d'organismes. Et la question maintenant va être de savoir quelle va être leur première acquisition. Alors, l'idée, c'est d'a priori d'acquérir des sociétés en Europe à forte responsabilité sociale et environnementale, hein, dans le secteur donc des biens de consommation, de la production et de la distribution. C'est le communiqué de cette fameuse 2MX Organics. Alors en fait, c'est ça reprend les prénoms, hein, c'est les initiales de... MX, vous voyez, enfin bon, je vous laisse refaire tout ça hein, dans ce que je vous ai raconté. Xavier Niel, Mathieu Pigas, vous avez compris? Bon. La question, c'est de savoir effectivement vers quoi ils vont d'abord se tourner. Est-ce que ça va se passer avec ce premier SPAC qui avait été créé en 2016 par Niel et Pigas, qui était dans le secteur de l'audiovisuel, qui a donné naissance à Media One? Est-ce qu'ils vont arriver à faire le même jeu? Alors, il y a des pistes, mais pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Une des pistes, ça serait de savoir si M. Zoary est intéressé par une des structures françaises qui a été apparemment une des marques préférées des Français dans cette grande distribution. C'est Grand Frais. Grand Frais, toi ça te parle pas trop, non, Laurent, mais il faut que t'arrêtes d'aller au marché acheter des pommes chez un producteur local. Grand Frais, c'est une structure qui est très particulière. Alors du coup je vais continuer, je vais essayer de faire bref, en même temps je peux pas. Grand Frais, c'est des supermarchés, ça a été créé en 92. Depuis, ça a beaucoup évolué. Le modèle, il est simple, c'est sous une même halle, parce qu'il faut avoir cette idée. Vous avez, je raconte ça pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui ne connaissent pas comme Laurent, pour les autres, bah, vous savez de quoi je parle. Vous avez des fruits, des légumes, l'épicerie du monde, la boucherie, poissonnerie, la crèmerie, le fromage, la boulangerie. Chaque rayon est détenu par une entité. Hein, le rayon fruits et légumes, c'est Prozol. La boucherie, ça va être Despi, Novo, Voyande. La boulangerie, c'est Marie Blachère. Euro Ethnic Food, c'est l'épicerie du monde. Et c'est... Alors après, il va y avoir...
C'est une sorte de supermarché alimentaire, du coup, avec des petites entités autonomes
c'est
à l'intérieur.
C'est des entités à l'intérieur qui sont à la fois partie prenante et autonome. Et puis, en plus, il peut y avoir des spécificités locales. Mais Prozol reste la tête, c'est-à-dire que c'est Prozol qui gère la caisse. Et les caissiers et les caissières qui vont avec. Et l'entretien, les bâtiments. Et à l'intérieur, vous avez ces entités qui font rouler la machine, finalement, avec les produits. Mais tout le monde est lié. C'est une organisation assez particulière hein, qui permet d'être plus efficace en termes d'économie. Certains disent aussi que c'est aussi plus efficace parce que du coup, il y a moins de problématiques de syndicats. Vous voyez ?
Ouais.
Je voudrais pas supputer ce côté-là, mais il paraît que c'est pratique. Donc, c'est un groupement d'intérêt économique. Hein, c'est comme ça que les gens se sont rassemblés dans cette affaire. Prozol, c'est... Grand Frais, c'est un truc de la région. Ben ouais, c'est pour ça qu'on connaît beaucoup aussi ici, dans le coin, c'est Givor. Donc, c'est voilà, c'est vraiment un truc de la région. Et puis, Hero Ethnic Food, c'est aussi un truc qui vous parle pas du tout. Je suis absolument bien persuadée. Pourtant, si je vous dis le nom Bahadourian, ça vous parle?
Ah oui.
Parce que ce sont deux frères Bahadourian. Alors, il y a eu le grand-père qui fuit en 1905.
Le génocide turc?
qui fuit donc l'Arménien par les Turcs. Va passer, il me semble, par la Jordanie, arrive en France, monte son épicerie, fait son affaire, une très très belle affaire. Il a lui-même les enfants et les enfants des enfants font eux-mêmes de l'activité. Il y a une activité qui va se développer sur le détail, l'autre sur des les grossistes. Et il y a l'essai de frères Bahadourian qui vont donc rentrer dans Grand Frais avec Hero Ethnic Food et qui vont développer leur petite affaire. Alors les frères Bahadourian, c'est des gens extrêmement discrets. On en parle très très peu. On en parle ces derniers temps beaucoup plus dans la presse, parce qu'il y a le magazine Bilan qui s'était intéressé à leur activité, en particulier à leur présence en Suisse. Et
Oui, parce qu'ils ont défiscalisé, c'est ça?
Alors, ils vivent en Suisse, mais ils défiscalisent au Luxembourg, puisque Hero Ethnic Foods est au Luxembourg.
Ouais, d'accord.
Faut suivre, pareil. Hein, je vous laisse un petit peu sortir le tableau. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Denis Dumont, qui a créé Grand Frais Prozol en 92, qui lui-même vient d'une lignée familiale dans le fruit et légumes, a cédé ses fonds à Ardian pour une valorisation qu'on parle, on parle de 1,4 milliard.
Oui, quand même.
Ah, quand même, ouais, je savais que ça allait te parler. Mais alors donc, il y a Prozol qui passe de fond, qui arrive à Ardian aujourd'hui. Et puis, on a les frères Bahadourian qui ont vendu une partie de leur Euro Ethnic Food. C'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans la presse. C'est ce qui, a priori, leur a rapporté aussi pas mal d'argent, puisqu'ils en ont vendu, je crois, 60%. Donc, ils en restent, ils en gardent quand même un petit bout. Ce qui leur permet de continuer, je pense, à s'enrichir. Donc, on a aujourd'hui Grand Frais. Je ne sais pas pour qui vous travaillez, mes amis. Je ne sais pas. C'est très compliqué, car d'autant plus que vous avez des fonds d'investissement qui arrivent dans l'affaire. Alors, en plus, est-ce que vous travaillez pour la partie boulangerie, épicerie du monde, les viandes ou, du coup, Prozol? Est-ce que vous êtes la caissière et le caissier qui, encore, n'êtes pas, du coup, de la même maison que les vendeurs et vendeuses du rayon boulanger? Et puis, maintenant, en plus, même quand vous arrivez à savoir pour qui vous travaillez vraiment, est-ce que vous savez derrière qui sont les actionnaires de tout ça? Il faut savoir que Grand Frais, c'est quand même 244 magasins en France. Donc là, c'est Pay Partners qui a acheté donc aux deux frères Bahadourian, Léo et Patrick, je n'avais pas dit les prénoms, 60% donc de leur boîte Hero Ethnic Foods. Donc c'est une société qui est placée au Luxembourg. Et donc les épiceries Saint-Fémarais d'ici et d'ailleurs sont donc très d'ici et d'ailleurs.
Et très d'ailleurs, quoi.
Très d'ailleurs, voilà. Donc bon, on se dit qu'a priori, dans ce truc Pay Partners, on a des gens qui sont du métier. Donc, il ne devrait pas nous coller tout ça trop rapidement. C'est quand même 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce truc des frères Bahadourian. C'est 18% du chiffre d'affaires de Grand Frais. Donc, c'est une belle valorisation. On parle entre 800 millions et 1 milliard d'euros aussi de valorisation. Donc, c'est des gros chiffres.
Mais ils doivent être vieux, parce que si leur père...
Ils sont 50... Non, ils sont la cinquantaine.
Ah non.
Ouais. C'est la, eux, c'était la
troisième génération.
C'était une
coup.
Fille, elle, de la. Voilà, c'était, ça descendait comme
du
ça.
Coup, c'est une famille de capitalistes dont on parle assez peu, même si elle est plutôt locale, du coup. Et les médias ont rarement focalisé sur la famille.
Il faut savoir qu'il y a quand même toujours une SA Bahadourian, et Armand Bahadourian, lui, il fait savoir qu'en fait, il ne fait pas partie du tout des histoires de holding liées à Grand Frais. Qu'il est très fier, que la famille est très réussie, vraiment. Je pense que c'est ses neveux, Léo et Patrick. Il est très content que les enfants de son frère Arthur aient bien réussi, mais pour autant il explique que lui il a ses magasins ici et à Paris et que c'est tout.
Voilà, oui, le fameux magasin dans
mais
le 7e.
Que
en fait, c'est une belle famille de capitalistes, comme on en a les Muliez, tout ça là, tout. C'est un truc, voilà.
C'est-à-dire, c'est une réussite. C'est-à-dire qu'en général, la réussite, elle entraîne la réussite. L'argent t'aide quand même à réussir. C'est quand même plus facile. Hein, donc voilà. Après, donc ce qu'on apprend donc grâce à Bilan, le magazine économique, c'est que donc ils font partie, les deux frères Bahadourian, des 300 plus riches de Suisse. Ce qui n'est pas rien quand tu es en Suisse.
Ouais, parce que c'est plutôt une concentration.
Pareil. Il y a aussi plein de pauvres et plein de classes moyennes. Mais c'est vrai que quand tu es quand même parmi les 300 plus riches de Suisse,
c'est
ça claque. C'est-à-dire que tu en as quand même un peu dans la poche, du pognon. Ils se sont intéressés aux frères Bahadourian qui, comme je vous le disais, sont très très discrets, excusez-moi, parce qu'ils ont fait pas mal d'investissements immobiliers. Et donc c'est aussi comme ça qu'ils ont pu arriver à suivre un petit peu à la trace et sortir la loupe, comme ils expliquent, pour arriver à un petit peu comprendre les acquisitions, et en particulier des acquisitions immobilières autour du Léman. Et c'est comme ça qu'on sait qu'ils ont pas simplement une Ferrari et un bateau immatriculé à Malte, qui est géré dans les îles Vierges britanniques, mais aussi qu'ils ont tout un pactole immobilier.
Ah ouais, donc c'est des spécialistes de l'évasion fiscale, quoi.
C'est toi qui le dis.
C'est ça. Quand t'as un truc immatriculé à Malte, un truc dans les îles machin, un truc au Luxembourg, c'est que tu veux pas payer les impôts là où tu gagnes de l'argent.
Ils ont une holding qui s'appelle Temis, et c'est avec ça qu'ils font des opérations en Suisse. Oui, donc on est face à des capitalistes et qui, voilà, et en fait, sachez-le, quand vous allez à grands frais, il y a quand même derrière toute une histoire d'actionnaires, de capitalisme, et c'est pas simplement... voilà, il y a une petite pensée quand même pour les gens qui vous servent et qui bossent, sachez que il y a des gens quand même qui se font beaucoup d'argent sur votre dos, si ça se trouve, c'est vous là qui m'écoutez. Voilà, allez.
Allez, on va aux États-Unis avec un gros capitaliste aussi, mais qui est devenu président de la République, enfin, président des États-Unis d'Amérique, pardon, pas de la République. On va parler de Donald Trump. Alors, faut savoir qu'aux États-Unis, le président, alors, c'est la fin du mandat, c'est pour ça qu'on en parle. Le président peut intervenir pour les jugements rendus par les cours et les tribunaux fédéraux. C'est à ce niveau-là que sont jugés notamment les crimes les plus graves, les assassinats, les trucs un peu volumineux en termes de mort ou en termes d'horreur, les attentats, les trucs comme ça. Donald Trump est un fervent partisan de la peine de mort. Ça, on le sait depuis longtemps. Et du coup, il profite de ces dernières semaines de présidence pour faire tuer le plus possible de personnes condamnées à mort, bien évidemment. Alors, cette fermeté contre la peine et cette attirance pour la peine de mort, c'est pas récent du tout, hein. On se rappelle de l'affaire de 1989, le siècle dernier. Donc il y a presque 30 ans, il était juste un mania de l'immobilier new-yorkais, Donald Trump. Il s'était déjà positionné plein de fois en faveur de la peine de mort. Et puis il y a eu la fameuse affaire des 5 de Central Park. Donc c'est un gros scandale judiciaire à l'époque, hein. C'est un truc horrible au début, une joggeuse là, assassinée dans Central Park. Et un procès monté contre, bien évidemment, 5 jeunes afro-américains et latinos. Qu'est-ce que fait Donald Trump ? Il paye une campagne publicitaire dans les journaux pour réclamer l'application de la peine de mort dans l'État de New York. Donc en disant ils sont criminels, il faut y aller, il faut les tuer, tout ça, ils sont pas bien, tout ça. Les jeunes seront innocentés dans le procès, en fait, les 5. C'est de là d'où est le scandale, un peu, parce que ils étaient forcément coupables, puisqu'ils étaient afro-américains et latinos. Et Donald Trump n'avait jamais regretté tout ça, toute la campagne qu'il a fait, montrant une belle preuve de son racisme. Et du coup, c'était que le début. Alors, si on regarde les chiffres aux États-Unis, hein, 45% des condamnés à mort sont des afro-américains. À savoir qu'ils représentent 13% de la population. Donc ils sont surreprésentés dans les condamnés à mort, dans les prisons, de partout. Et en fait, l'analyse, c'est pas parce qu'ils commettent plus de crimes, d'abord c'est parce qu'ils sont plus pauvres, et aussi c'est parce qu'il y a une énorme, et c'est le facteur le plus important, une énorme présomption de culpabilité dès qu'on est une personne de couleur. Donc ça les rend ultra vulnérables face à un système judiciaire qui est ultra agressif face aux personnes de couleur. Alors ça concerne les Afro-Américains et ça concerne aussi du coup les Latinos. C'est les deux parties de la population américaine qui sont quand même le plus visées par ce système judiciaire inégal. Donc voilà, il y a une très grosse inégalité. Aujourd'hui, donc c'est William Barr, le ministre américain de la Justice, qui est le bras armé de Donald Trump pour faire appliquer ses exécutions. Il en a prévu 5 d'ici la fin du mandat de Donald Trump. Alors pour ça, il a même édité des nouvelles règles pour que ça aille plus vite, pour que ça soit plus efficace. Autrefois, dans l'état dans les exécutions fédérales, on parle, ça pouvait se faire que par injection létale. Une forme soi-disant moins horrible, moins torturante de tuer les gens. Aujourd'hui, ils ont le droit au peloton d'exécution, le truc horrible, et à la chaise électrique, où on meurt dans d'atroces souffrances. Si Donald Trump poursuit son rythme jusqu'à l'investiture de Joe Biden, donc le département de la justice aura procédé à 17 exécutions en 6 mois, au niveau fédéral, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1927. Donc il y a un moult années. Donc voilà, Donald Trump bat le record, va battre le record depuis de 1927 bientôt. Donc voilà. Alors il n'y a pas que ça dans la fin de mandat qui est apocalyptiquement ridicule et triste de ce triste personnage. De toute façon, c'est qu'il consacre aussi ces dernières semaines à faire des grâces présidentielles. Alors ça, c'est pas le premier, ils le font tous. Tous les présidents, ils profitent de la fin de leur mandat pour faire des grâces. Alors des fois, c'est des grâces politiques, symboliques, sur des condamnés politiques. Hein, on sait qu'aux États-Unis, comme en France, on a des gens qui sont condamnés pour des raisons politiques. Il y a Léonard Peltier aux États-Unis, Mounia Aboud-Jamal, des choses comme ça. Des choses comme ça, des gens comme ça qui sont condamnés sur des vraies raisons politiques, mais officiellement c'est pas ça, hein. Ils sont condamnés, on trouve une excuse, oh, lui il a tué un policier, tout ça, même quand c'est pas vrai, on y arrive dans la justice de temps en temps. Mais il fait pas ça, Donald Trump, lui il gracie ses anciens collaborateurs qui ont été condamnés par la justice pendant son mandat. Et il envisage même de s'autogracier, puisque c'était le risque pour Donald Trump, c'est que de perdre l'élection et de se retrouver poursuivi pour moult action, par moult action en justice. Donc il va essayer de s'autogracier. Alors du coup, ça a quand même secoué la justice, puisqu'une enquête a été ouverte au sujet des nombreuses grâces qu'il est en train de faire, parce qu'il y aurait peut-être un système de corruption derrière, où les gens auraient payé, changé des choses pour avoir les grâces du président. Il en est capable, hein, le père Donald Trump. Donc voilà où on en est aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas la plus grande démocratie du monde, hein, non, c'est l'Inde, la deuxième plus grande démocratie du monde. Ah, c'est pas glorieux. Ah, c'est encore à moi.
Ouais.
Oh, puis, oh.
Et puis alors, vas-y, comme ça, après, je pourrais continuer, s'il te plaît.
Non, mais là, il y a des moments.
Pas à l'essentiel.
On s'énerve. On s'énerve. Et tout à l'heure, j'ai lu ça, je me suis énervé. Donc, c'est le syndicat Police Alliance, que vous connaissez tous. Sans doute, un syndicat qu'on peut tranquillement qualifier politiquement d'extrême droite, hein, vu les idées qu'il défend. Et qui est un grand défenseur, hein, des violences policières. Il défend toujours les policiers qui tuent ou qui violentent les gens sans raison. Et même avec raison, mais il s'en fout, de toute façon il défend tous les flics par principe, hein. Même le pire policier du monde. Et donc une nouvelle polémique a été lancée par ce magnifique syndicat Alliance, puisque hier ou avant-hier, ils ont lancé une cagnotte pour soutenir, je cite, nos collègues Philippe, Pierre et Aurélien. Vous savez, c'est trois parmi les quatre qui ont tabassé le producteur de musique Michel Zecler. Hein, tout le monde a vu les images, l'horreur absolue, voilà. Et ben lui, enfin eux, syndicat Alliance, ils font ça. Donc, alors ça a un peu fait réagir. Du coup, ils ont fait machine arrière, ils ont supprimé la cagnotte. Mais ce qui est un poil ironique, c'est que ce syndicat Alliance, l'année dernière, il avait couru. Enfin, son représentant, ça devait être Benoît Barrère, il avait couru sur tous les plateaux télévisés pour dénoncer la cagnotte de soutien à Christophe Détinger, vous savez, le boxeur gilet jaune. Voilà. Il a dit, c'est inadmissible, ça fait une prime à facturer du policier. Et eux, un an après, ils font pareil, ils font une prime à facturer du citoyen. Bon, hein, comme quoi on n'est pas après une contradiction. Je vous rappelle un petit truc sur le syndicat Alliance, parce que c'est pas la première fois qu'ils sont horribles, hein, qu'ils sont indéfendables, qu'ils nous donnent envie de vomir. On va revenir à quelque chose qui avait été publié dans le Canard Enchaîné en avril 2013. Enfin, c'est un tract d'avril 2013. Le Canard Enchaîné l'avait publié en 2015. Je vais vous expliquer pourquoi 2015. C'est un tract donc qu'avait fait un an et demi avant à peu près le syndicat Alliance contre la protection accordée à Charlie Hebdo. Donc ils étaient allés, alors voilà ce qu'il y a dans le tract par exemple, ils disent le 4 avril lors d'une audience auprès du directeur de la direction de l'ordre public et de la circulation, nous avons exigé l'arrêt immédiat de la mission Charlie Hebdo, cette mission qui protégeait les locaux de Charlie Hebdo et les journalistes de Charlie Hebdo et les travailleurs et travailleuses de Charlie Hebdo. Depuis plus de 7 mois, je continue dans le tract, les compagnies d'intervention fournissent jusqu'à 9 collègues par jour pour la protection de locaux privés d'un journal. Et ils continuaient en disant qu'ils avaient une bonne intuition et qu'il fallait arrêter, qu'il n'y avait plus besoin. Quelques mois après, il y avait l'attentat contre Charlie Hebdo. Voilà, ça donne un peu une image de ce que c'est Alliance, syndicat voilà, dont les idées sont du côté de l'extrême droite et qui défendent contre vent et marée le droit à la violence policière. Merci Alliance, c'est à toi.
Oui, je vais un peu continuer aussi dans cette idée un petit peu d'extrême droite. Alors, pour vous dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018, Monsieur Macron a lancé les Tech for Good. C'est censé rassembler chaque année les patrons de la tech mondiale. Le 9 décembre prochain devrait être présenté le Digital Service Act de l'Union européenne qui doit définir la régulation pour les réseaux sociaux. Donc là, on a un super truc, c'est un manifeste de 70 patrons de la tech mondiale. Alors j'ai dit bien patron, parce que j'ai eu un doute à un moment, donc j'ai vérifié. Donc on a un certain nombre d'entreprises, de multinationales françaises, je vais le dire comme ça. On retrouve donc Orange, je vous rappelle que le patron s'appelle Stéphane Richard. On retrouve Iliad, je vous rappelle ce que c'est, donc Xavier Niel dont on vient de parler. TF1, Gilles Pélisson. On a BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé. On a L'Oréal, hein, qui est aussi là-dessus, Jean-Paul Agon. On a Blablacar, Frédéric Mazella. On a Doctolib, c'est Stanislas Nieuwschâteau. Et puis, donc, on va retrouver après des grands. Hein,
internationaux.
Internationaux comme Google, je vous rappelle que c'est Sundar Pichai. Oracle, je vous rappelle que c'est Larry Ellison. Uber, je vous rappelle que c'est Dara Khosrowshahi. Je le dis mal, mais je le dis. On a aussi Twitter, là, je vous rappelle que c'est Jacques Dorsey. Et puis, on a Snapchat, c'est Evan Spiegel. Moi, je pourrais même vous dire Twitter France, Google France, c'est Damien Viel. Pardon, les Twitter France, hein, on ne va pas tous les faire. Booking, hein, le site de réservation. Là, j'ai perdu le nom du patron. Ah là là. Enfin, globalement, c'est que des bonhommes. Il y a Facebook aussi.
Ouais. Mark Zuckerberg. Il y a quoi dans ce manifeste ?
Alors, donc il y a un manifeste.
Donc,
je rappelle qu'un manifeste.
Fait par des hommes.
Voilà. Alors, non, mais c'est juste pour dire quand même qu'on a.
Enfin, un patron, une patronne, c'est pareil. Hein.
Non, mais ouais, mais enfin, c'est juste pour définir quand
mais,
même que.
Le sexisme est évident.
Hein, quand même. Bon, excuse-moi, ouais. Quand même. Elles c'est sont sûr. Les nanas, quoi, ouais. Hein, dans ce truc. Alors, un manifeste, c'est bien parce que c'est pas contraignant. C'est ça. Donc, c'est un engagement.
À être gentil.
C'est 8 engagements. Ouais, être gentil, c'est un peu s'habituer. C'est très, très bien.
Nous sommes des bisounours, laissez-nous être des bisounours.
Sur les Tech for Good, hein, en 2018, donc, c'était des questions sur l'éducation, le travail, la parité, la diversité.
voilà. Ils se sont engagés sur la diversité.
En 2019, c'était sur l'inclusion économique et sociale, sur l'environnement. On a bien vu, hein, tout ça, c'est vachement bien. Donc, là, c'est pareil, hein, c'est censé quand même évoluer. Donc, c'est patron de la tech se sont dit, ah là là, on va faire des trucs vachement bien. Donc, alors, un des engagements, le premier, hein, c'est la lutte contre les contenus haineux et terroristes. Ouais.
C'est pas gagné.
Pas gagné. L'idée aussi, c'est de concevoir des produits selon les principes, je cite, de sécurité par design et de vie privée par design. C'est-à-dire que normalement, t'es censé avoir une liberté de choix en tant que consommateur et consommatrice. Donc, on pense à Google.
Ah oui, on maîtrise à fond nos données avec Google.
Voilà.
C'est sûr.
Et puis surtout, ce que tu peux faire, c'est-à-dire, est-ce que beaucoup de gens finalement finissent par avoir des Gmail, hein, et utiliser Google comme moteur de recherche. C'est-à-dire que finalement.
C'est foutu.
Voilà, puis Google te met tout de suite en avant ses propres produits. Donc voilà, c'est un peu lutter contre ça. Mais on attend que Google lutte contre elle-même en tant qu'entreprise multinationale. On a du mal à le penser. Alors, c'est aussi de partager les données avec le monde de la recherche. Voilà, je sens que ça te laisse sans voix. Ouais. Et puis alors le mieux, moi je trouve, hein, quand même dans les engagements, c'est de contribuer équitablement aux impôts des pays. Je ne sais pas ce que ça veut dire équitablement aux impôts des pays.
En tout cas, c'est pas payer la dose normale.
Voilà. Alors tu as remarqué quand même qu'il y a des marques que j'ai pas citées et on sent que du côté du gouvernement et de Monsieur Macron, on pointe un peu vers deux entreprises multinationales précises. C'est Apple et Amazon qui ont refusé de signer ce machin.
Bah, ils sont peut-être moins hypocrites que les autres, du coup.
Ouais, je sais pas. Je crois que ça les rend pas meilleurs et les autres non plus.
Non, voilà.
Je vais continuer avec la haine donc qui se déverse depuis déjà maintenant quelques semaines. Vous avez donc entendu que Decathlon s'est retiré des écrans de CNews.
Ouais, mais ils ont le droit, de toute façon, voilà. Ils se mettent où ils veulent, en fait.
Donc, nous sommes quand même dans un droit économique, c'est-à-dire je mets mes publicités sur ce que je veux, et ça fait bondir dans les milieux d'extrême droite, et même de droite, parce que c'est quand même une privation de liberté d'expression. C'est vrai que de la publicité...
C'est la liberté d'expression.
D'expression. Là, je crois qu'on a perdu le nord, quand même, à l'extrême droite, et même à droite, puisque même chez les Républicains, on s'y est mis aussi à raconter des conneries sur cette affaire. Alors, je vais pas tous vous les faire parce que c'est quand même très très drôle. L'idée, hein, c'est que Décathlon a été mis en faute par le collectif Sleeping Giants, dont je vais reparler dans un instant. Mais il n'y a pas que ça. Et donc Décathlon a reconnu qu'effectivement, rester sur CNews, c'était rester sur une chaîne qui déverse de la haine. Très bien, jusque-là, on l'aura compris.
Et ça ne correspond pas à leur positionnement commercial.
Voilà, Décathlon, c'est quand même des chaînes qui est le plus aimé en France.
Qui d'être inclusive.
Voilà.
Oui, non.
Donc,
ouais. C'est un calcul économique, hein, ce qu'ils font. Hein.
Ou pas, on s'en fiche. Ouais. À la rigueur, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est plutôt bien. Tant mieux si les gens quittent CNews.
Oui.
Voilà,
oui,
tant mieux, tant mieux. Donc, c'est Valeurs Actuelles qui s'éclate depuis maintenant.
Valeurs Actuelles.
Depuis le 20 novembre, vous voyez, depuis le début de l'affaire.
Et tu sais que le truc Ruffin qu'il a dit, là, ils l'ont mis plein de fois sur Valeurs Actuelles. Ils sont super fans de Ruffin, là, depuis aujourd'hui.
Bien sûr. Donc, on a tout un tas de positionnements. On a, par exemple, Virginie Joron, qui est membre du Bureau National du Rassemblement National, qui a fait une tribune dans Valeurs Actuelles le 26 novembre dernier pour expliquer que c'est quand même une drôle de stratégie commerciale, puisque déjà, en fait, Décathlon fait produire au Pakistan et au Bangladesh deux pays, je cite, dont les foules ont délivré ces dernières semaines de chaleureuses manifestations d'inimitié à la France, il y a ses valeurs républicaines. Alors moi, quand le Rassemblement National se met d'un seul coup à vouloir faire des trucs de gauche et à soutenir le travailleur et la travailleuse française contre un protectionnisme français...
Eux, ils sont pour l'exploitation locale. Il faut exploiter le peuple ici, ouais. Les exploiter ailleurs, on s'en fout.
Mais en même temps, il y a nul doute que les salaires et conditions de travail des employés de ces pays n'auraient rien eu à envier à celles des travailleurs français si Décathlon n'avait pas choisi une stratégie de délocalisation industrielle massive. J'adore quand le Rassemblement National, comme le Front National avant, d'un seul coup se mettait à avoir des idées communistes.
Incroyable. Non, pas communistes, mais tout le monde est contre la délocalisation, c'est un truc transversal maintenant.
Ouais, enfin ça fait c'est quand même, je trouve vraiment reprendre quand même un truc qu'ils n'appliqueront jamais quand ils seront au pouvoir, parce que faut pas se leurrer, un jour ils y arriveront, vu comment ici
c'est
mal parti et que les Français deviennent des sales racistes fascistes. Il faut se souvenir que Décathlon avait voulu proposer des vêtements pour les femmes musulmanes et qu'ils se sont fait défoncer leur tête. On arrivait à une bêtise quand même, hein, sur cette extrême droite. Et alors Valeurs Actuelles a sorti pratiquement tous les jours un papier contre Décathlon pour s'énerver. Alors on a eu des tribunes, on a eu un papier de Gilles William Goldanel, qui est l'avocat et chroniqueur, hein, de Valeurs Actuelles, ils en sont très très fiers, qui explique que Décathlon court derrière une clientèle islamiste et que c'est complètement illégal de boycotter une chaîne de télévision.
Il faut qu'on leur explique. Ils font pas de pub sur Radio Canu non plus, hein, tu sais. Hein, ils comprennent pas tout, en fait, la liberté, le choix, tout ça.
Ce qui est très drôle, c'est qu'il faut remonter en arrière à ce collectif Sleeping Giant, qui est donc un Sleeping Giant France, c'est un truc qui vient des États-Unis. Sleeping Giant s'est battu aux États-Unis contre les groupes de médias aussi porteurs d'idées d'extrême droite, comme CNews, hein, qui ressemble exactement à ça, et donc sur les réseaux sociaux fait une propagande immense pour appeler les marques à quitter les médias racistes et d'extrême droite, et c'est exactement ce que fait ce collectif ici. Alors on les accuse de rester anonymes, moi je comprends, en même temps quel est l'intérêt de te mettre en avant. Sleeping Giant explique ici, en plus il n'y a pas de hiérarchie, à quoi ça sert de mettre des gens en avant, et puis qu'en plus au vu des réactions de l'extrême droite, ils n'ont pas trop envie de se faire péter la gueule. Moi là-dessus je vais plutôt soutenir cette idée de rester anonyme, et puis on s'en fout, ce qui compte c'est le propos. Donc là par exemple, on vient d'apprendre là tout juste que But vient de retirer ses bannières de Valeurs Actuelles. Nouvelle victoire, hein, donc pour ce collectif, mais il y en a plein d'autres. Et quand on tourne un an en arrière, le 6 décembre 2019, tu vois, un an en arrière, on tombe sur une attaque de Valeurs Actuelles contre qui ? Contre Sleeping Giant, qui s'était attaqué à Valeurs Actuelles pour que les annonceurs clitent le journal d'extrême droite, raciste, fascisant, qui appelait à la haine, et dénonçait donc dans des posts sur Twitter et sur Facebook, et dénonçait, mais demandait aussi aux marques de quitter Valeurs Actuelles. Et donc, si aujourd'hui Valeurs Actuelles défend autant CNews, c'est pas simplement qu'ils ont les mêmes opinions, c'est aussi parce que Valeurs Actuelles a besoin de se venger.
Voilà. Et puis qu'ils ont peur que ça leur arrive à nouveau.
Bon, ça leur arrive tout le temps, puisque là, tu vois, But a quitté Valeurs Actuelles.
Voilà. Alors, une petite rubrique rationaliste ou ni Dieu ni maître. On commence par la Pologne, et c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin en tout cas une initiative courageuse dans un pays compliqué, dirons-nous. Donc c'est sur un groupe Facebook de la multinationale du réseau privé qui s'appelle Apostasie 2020, qui a été créé il y a environ un mois et qui devient de plus en plus gros, de plus en plus actif. Ce groupe, c'est un groupe d'entraide au départ qui a été créé pour celles et ceux qui veulent faire une démarche d'apostasie, c'est-à-dire une démarche de sortie de la foi chrétienne très présente hein, dans ce pays réactionnaire. Le groupe a à peu près 8000 membres pour l'instant, ce qui est quand même plutôt un exploit hein, pour cette Pologne religieuse. Alors sur le groupe, il y a d'abord pas mal de témoignages qui viennent un peu de tout le pays. Certes, beaucoup plus des grandes villes, mais aussi des plus petites villes. Et chacun et chacune partage son expérience et les démarches qu'il faut effectuer pour faire cette fameuse apostasie, sortir, se faire débaptiser, ce qu'on appelait nous les campagnes de débaptisation qu'il y avait dans Charlie Hebdo il y a quelques années, qui reviennent assez régulièrement. Alors pour demander l'apostasie en Pologne, c'est plus simple qu'en France, je trouve. Il faut en France faut envoyer une lettre au diocèse, tout ça. Là, il faut il faut présenter son certificat de baptême ainsi qu'une lettre avec des motivations, les amener à son curé, au curé de sa paroisse, au prêtre de sa paroisse. Autrefois, il fallait venir avec deux témoins, tout ça, ça a été simplifié. Et du coup, ce qu'ils partagent sur ce groupe, eh ben, c'est les difficultés que tout à chacune rencontre, parce que il y a de la résistance chez les religieux. Hein. Donc il y en a qui disent non, il y en a qui disent ouais, qui embêtent. Alors officiellement, ils n'ont pas le droit de dire non, mais ça arrive. Et du coup, ils font un classement, ils disent, bah voilà, dans telle ville, il y a telle paroisse où c'est facile, ils acceptent systématiquement la débaptisation, et donc c'est un groupe de partage d'expérience et d'échanges de là où on peut faire avancer les choses par rapport à ses soins personnels. Alors, tout ça, c'est né finalement en réaction des manifestations suite à la tentative quasi réussie d'interdire, alors c'est un peu reculé, hein, d'interdire définitivement l'avortement en Pologne, qui est déjà ultra limité. Il y a eu des manifs, et dans ces manifs, on a vu apparaître un discours anti-religieux et un discours de séparation de l'Église et de l'État. Ça a lancé un petit peu ces groupes, et qui permettent à ces jeunes et ces moins jeunes d'afficher officiellement leur sortie de la religion, de celle-là, mais de la religion tout court. Alors c'est un peu plus ambigu que ça, la sortie de la religion. C'est en fait ce qui est critiqué, c'est la foi, donc l'idée de croire et ce truc irrationnel. Mais c'est pas majoritaire. La majorité des critiques, c'est sur l'Église elle-même, ce qu'elle représente, parce que l'Église catholique de polonaise, c'est pas simplement une secte qui a réussi, qui est officialisée comme on a chez nous. Non, c'est aussi quelque chose qui est au sein de l'État, au sein du parti majoritaire aujourd'hui, le PiS, et qui a ce discours anti-LGBT, anti-femmes, qui est porteur de ça. Donc il y a une partie des femmes et des hommes qui veulent en sortir pour l'attitude, le comportement de cette Église. Il y a les deux choses. Hein. Alors quand ils regardent les gens qui sont sur ce groupe, et qui sont motivés là pour faire cette apostasie, on se rend compte qu'il y a pas mal de jeunes. Et ce qui est peut-être rassurant, ça veut dire parce qu'il y aurait seulement 9% des jeunes polonaises. Alors là, on parle des femmes, du coup, parce que c'est un groupe qui est quand même très féminin au départ, puisque c'est lié de ces manifestations, mais pas que. Hein. Et il y a 9% seulement des jeunes polonaises qui ont une image positive de l'Église polonaise. Donc il y a peut-être un espoir pour l'avenir, parce que là, la Pologne, ça fait peur quand même. Pour le rationalisme, pour le droit des femmes, c'est quand même ultra rétrograde. Et donc, si on se dit, si ce groupe, il représente rien de particulier, c'est pas une étude scientifique sur la population, etc., mais ça donne une image que les jeunes ont l'air d'être beaucoup plus détachés de cette tradition passéiste liée à la religion. Donc, il y a peut-être un espoir en Pologne. Voilà, c'est ce que je voulais faire passer. Alors le dernier truc sur la religion, sur le ni Dieu ni maître de cette semaine, c'est la réaction suite au communiqué et au recul du gouvernement. puisqu'officiellement, il y a eu un communiqué hier soir du ministère de l'Intérieur qui annonce la nouvelle jauge pour les cérémonies religieuses. Hein, avant, il y avait 30 personnes. Maintenant, c'est il faut tant de mètres carrés, il faut séparer, qu'il y a un espace entre deux personnes, donc un siège de vide, comme on fait dans certaines cantines aujourd'hui. Enfin, des choses comme ça. Ce qui va booster le nombre de croyants dans les lieux de culte, quand les lieux de culte sont grands. Et c'était une demande hein, qui a été validée par le Conseil d'État, saisie par les assos catholiques et un comité protestant et évangélique. Et on découvre tout de suite que le gouvernement, alors que le Conseil d'État plie devant les religions, alors ça c'est, ils en ont l'habitude, ils sont très adeptes hein, des religions, des trucs irrationnels, ils plient. Oui, vous avez le droit. Donc, aujourd'hui, les adorateurs de ces personnages imaginaires là, qui auraient fait des choses un peu exceptionnelles, ils ont le droit d'aller voir leur spectacle, leur messe, d'aller à leur culte. Par contre, rien n'a bougé pour le théâtre, pour le cinéma. J'ai aussi souvent des personnages imaginaires hein, qui sont mis en scène. Là, pas du tout. Là, il faudra attendre le 15 décembre si tout va bien pour qu'il y ait une réouverture. Donc, on sent il y a une vraie attitude discriminatoire du gouvernement entre la culture et le culte. Du coup, la séparation de l'Église et de l'État, ça nous fait quand même bien rigoler. Hein. Donc voilà, c'est à toi.
Alors je vais faire vite. On va finir avec deux infos pour rigoler. Alors la première, je vous raconte ça au cas où vous ayez un certain iPhone et comme beaucoup de personnes, vous le faites tomber dans vos WC. Il paraît que ça arrive souvent. C'est une des raisons de panne. Attention,
c'est pas
attention,
très étanche, ouais,
d'après le régulateur italien de la concurrence, il ne faut pas croire les allégations de Apple. Apple vient de se prendre 10 millions d'euros d'amende pour allégations mensongères sur la résistance à l'eau des iPhones.
Oui, c'est pas censé aller dans les shots, quoi.
Alors, d'après Apple, y aurait une résistance aux éclaboussures, aux liquides renversés. Donc effectivement,
tu t'immerges pas hein, quand t'as un liquide renversé. C'est pas tout à fait pareil.
Sauf que, d'après l'autorité de la concurrence, qui a dû s'amuser à faire des tests, ce ne sont des allégations sur les éclaboussures et liquides renversés, ce qui vous arrive aussi avec votre café, par exemple, votre thé ou je ne sais quoi d'autre, votre bière, que ça tombe donc sur votre appareil multifonctionnel. Et en fait, les tests ont été faits qu'en laboratoire, dans des conditions contrôlées et avec des profondeurs maximales. Alors, ils ont essayé plein de trucs, hein, d'abord les régulateurs, mais ils se disent que par rapport à ce qui est amené par Apple, ça ne marche pas, puisqu'en fait, ils ont utilisé de l'eau plate purifiée.
Ouais, grosso modo,
en laboratoire.
Ils ont dit que c'était à peu près étanche et ça n'allait pas, quoi.
Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont pris 10 millions. Ouais. En plus de ça, l'autorité italienne explique aussi qu'il y a un truc quand même bizarre, c'est que donc d'après Apple, d'après la multinationale, il y aurait une partie de ces iPhones qui serait donc résistant aux éclaboussures et à l'eau, et en même temps, si ton smartphone est endommagé par un liquide, et ben la garantie elle marche pas. Donc tu peux rire. Ouais. Donc voilà, donc ils sont pris 10 millions, ça c'était Apple. Et puis pendant qu'on est en plein Black Friday, sachez que le site Wish.com, dont on a beaucoup de publicité souvent sur Internet, a été est dans la panade, puisque la DGCCRF, hein, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a transmis au parquet de Paris les conclusions de son enquête, à savoir, blablabla, Wish.com, c'est des menteurs.
Ouais, les articles contrefaits, mais ça pullule hein, sur ce.
Alors, il n'y a même pas que ça. C'est drôle, d'abord, Wish.com t'explique que tu vas avoir des super promotions, moins 40, moins 50, voire moins 90%. Même le Black Friday, il ne fait pas le poids à côté.
Mais par contre, ils avaient monté les prix avant, tu veux dire?
Non, mais c'est qu'en fait, de toute façon, c'est 1 euro, c'est 1 euro, quoi. Donc, il n'y avait pas de rabais, en fait, dessus.
Ouais, c'était le prix qu'ils avaient prévu.
Ouais, c'est le prix. Alors, c'est une plateforme hein, de vente, donc c'est le prix qui est prévu par le vendeur ou la vendeuse. Hein, voilà. Mais ça pose souci, puisque tout ça est du mensonge, bien évidemment. Et puis, comme tu le dis, l'autorité donc, de la répression des fraudes fait aussi savoir qu'il y a une mise en avant d'un certain nombre de marques très connues avec des logos, alors que ces marques ne sont pas vendues sur le site. C'est-à-dire qu'on allèche le client et la cliente avec des produits qui n'existent pas et qui ne sont pas vendus. Alors, le mot contrefaçon n'apparaît pas, en fait, hein, dans l'enquête. Par contre, il semblerait qu'effectivement, quand on trouve ces fameuses marques, ce n'est pas des bonnes.
Ouais, non, mais, j'ai fait ça une fois, une expérience pour essayer, tu tapes sur des trucs, t'as des trucs qui sont tellement pas chers pour une marque. De toute façon, nous, on n'achète pas ce genre de trucs, mais c'est très drôle. Du coup, c'est évident que c'est des faux. Après, ils ont super mauvaise réputation, hein, de toute façon, Vich.
Ouais, ouais, alors, c'est en particulier les marques de sport, tout ouais, ça,
avec les bandes, d'acheter sur un truc comme ça, quoi.
Avec le petit animal aussi, avec les griffes devant, tout ça. Donc, effectivement, bon, c'est pas terrible. Alors, là, il faut savoir que Wish.com, qui est quand même encore assez neuf, hein, en tant que structure, groupe, c'est une multinationale qui est quand même assez récente. Ça vient de San Francisco, hein, parce que c'est bien connu, tout ce qui vient de San Francisco, c'est vachement bien. Doit tenter une introduction en bourse aux États-Unis. Et vise donc une valorisation entre 25 à 30 milliards.
Ah, quand même.
De dollars. Il y a un algorithme, il paraît, qui est hyper bien, hein, pour te fourguer des fausses marques.
Je m'en rends pas compte, ouais.
Donc c'est l'idée, c'est évidemment, c'est un algorithme qui permet à la relation client-marchand. Et c'est ça qui est extrêmement valorisé.
Ouais, les trucs où t'achètes une fois un produit dans un machin et ils t'en proposent 50 pendant 5 ans, quoi.
Donc là, évidemment, Wish.com risque une très très grosse amende, hein, c'est 10% du chiffre d'affaires annuel. Donc ça va pouvoir taper fort, d'autant plus que c'est devant le parquet de Paris maintenant. C'est-à-dire que c'est pas juste un avertissement de la répression des fraudes, mais bien quand même une sanction assez lourde qui pourrait tomber.
Ouais. Toutes ces belles multinationales, voilà. C'est pas très glorieux tout ça.
Non.
Eh ben, il est 20h passé de 5, 6, 7, ouais. 8 secondes.
Ça
à...
avance.
Ah oui, ça avance. Ah oui, c'est vrai.
Secondes.
Il est 59 seulement. On est la pendule nucléaire, la rouge et noire de Radio Canu est un peu en avance.
Bon, en tout cas, on peut finir quand même en vous disant qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Je tiens à amener un message personnel en disant auprès de Jean-Yves, je suis absolument désolé que nous n'ayons pu être là
la semaine dernière.
On s'en excuse, hein, voilà.
Et deux rages dedans sur quand deux même. Animateurs,
voilà,
c'est improbable.
On aura toute notre vie, mais voilà, on s'excuse et c'est toujours sympathique d'avoir des petits messages. De nos
d'amour.
Auditeurs préférés. Ouais. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Sachez qu'il y a toujours des émissions qui arrivent quand même, soit à être diffusées en direct, soit à être diffusées tout court.
Ouais, là c'est plus facile maintenant.
Et puis il y a des bandes continues qui sont là, c'est toujours aussi chouette. Il y a des beaux morceaux anti-police en ce moment. Voilà, il faut juste tomber dessus.
Bye bye.
Ciao.